18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Je continuerai quand même à faire des petites balades parce qu'il fait beau en plus en ce moment, donc c'est pas parce qu'il y a un confinement que je vais m'arrêter de vivre. J'en veux plus.
La lassitude de cette Parisienne qui s'attend à un tour de vis supplémentaire à Paris et dans toute l'Île-de-France à la veille d'un nouveau conseil de défense sanitaire.
L'exécutif mise sur une accélération de la campagne de vaccination pour éviter un reconfinement national. Le vaccin AstraZeneca est d'ailleurs étendu aux plus de 65 ans.
Accélération, élargissement du public prioritaire. La Haute Autorité de Santé recommande également d'autoriser les pharmaciens, les infirmières et les aides-soignantes à administrer tous les vaccins anti-Covid, pas seulement celui d'AstraZeneca.
10 000 victimes d'actes pédophiles dans l'église de France depuis 1950. Le président de la commission d'enquête indépendante sur les abus sexuels vient de faire un premier point d'étape.
À Bordeaux, un adolescent de 16 ans toujours hospitalisé après avoir été blessé par balle alors qu'il voulait forcer un barrage de police au volant d'une voiture.
Adieu moteur hybride et moteur thermique. Volvo va passer comme d'autres constructeurs au tout électrique d'ici 2030, dit-il. Ces futurs modèles seront disponibles uniquement sur Internet.
On ne sait pas vraiment si on doit dire champagne, ça tombe bien. La Formule 1 tourne le dos à une tradition qui a beaucoup fait pour l'histoire de la discipline. Les vainqueurs des Grands Prix ne sableront plus le champagne sur les podiums. Le nom de son remplaçant à la fin de ce journal. Et puis la Bourse de Paris crève le plafond des 5800 points, plus 0,29% de hausse à 5809 points.
La météo avec Anissa Dadi, bonsoir. Anissa.
Bonsoir Julien.
Atmosphère printanière, voilà le programme.
Oui, comme aujourd'hui, hein, toujours beaucoup de soleil. Demain, des températures en hausse, encore demain après-midi. Mais attention, sur le nord-ouest, nous avons une perturbation qui va nous apporter des nuages et quelques petites gouttes. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Gardez le cap coûte que coûte et croisez les doigts aussi un peu pour que ça tienne, ça peut aider. L'exécutif veut tout faire pour éviter un reconfinement national. En revanche, dans 20 départements, dont ceux de l'Île-de-France, la question d'un confinement le week-end est sur la table.
Oui, à Paris et dans toute la région Île-de-France, le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants a été multiplié par 3 entre décembre et fin février. Plus de 7 lits de réanimation sur 10 sont aujourd'hui occupés par des patients Covid.
La maire Anne Hidalgo ne veut pas d'un confinement le week-end, ce serait inhumain, dit-elle. Qu'en pensent les Parisiens, Zoé Pallier ? Vous êtes en direct des Quais de Seine.
Oui, alors écoutez Christophe, ici tout le monde en est persuadé, ce n'est pas seulement un confinement le week-end qui les attend, mais un reconfinement strict. Alors les Parisiens sont venus profiter cet après-midi, bière à la main sur les quais. Certains ont même pris leur ordinateur pour télétravailler au soleil. Les beaux jours, justement, c'est ce qui rendrait un confinement encore plus difficile à accepter pour Delphine.
Je reviendrai sûrement ici tous les jours. Je continuerai quand même à faire des petites balades parce qu'il fait beau en plus en ce moment, donc c'est pas parce qu'il y a un confinement que je vais m'arrêter de vivre. J'en veux plus.
Alexandre, lui aussi, pressent que le prochain apéro se fera par visioconférence. Alors il envisage toutes les solutions pour y échapper.
Nous réfléchissons aussi un petit peu de partir s'exiler un peu ailleurs où les mesures sont peut-être un peu moins strictes, dans le sud ou dans le centre, pour éviter un peu tout de revivre ces confinements qu'on a déjà vécu deux fois. J'étais resté justement en région parisienne, dans le petit appartement de 30 mètres carrés. Ça en fait une fois, deux fois, trois fois si on peut essayer d'éviter...
Et même parmi ceux qui vivent dans de petits appartements, certains me disent être prêts à se reconfiner plusieurs semaines, si cela signifie pouvoir revenir face à la scène pique-niquer, écouter de la musique et se prélasser sans la menace du Covid dès le début de l'été.
Merci Zoé Pallier, en direct donc des Quais de Seine à Paris. La question du confinement le week-end sera sans doute d'ailleurs abordée demain au Conseil sanitaire de défense. Le Premier ministre Jean Castex pourrait d'ailleurs prendre la parole jeudi soir.
Et le gouvernement qui compte plus que jamais sur la vaccination pour franchir la ligne d'arrivée sans passer par la case confinement strict et long.
Une campagne qui devrait accélérer brutalement, Victor Delande, puisque la Haute Autorité de Santé a fait une série d'annonces. Elle veut notamment étendre le vaccin AstraZeneca aux plus de 65 ans.
Oui, après l'annonce d'Olivier Véran hier soir, la Haute Autorité de Santé a effectivement recommandé ce matin d'étendre l'autorisation du vaccin AstraZeneca aux plus de 65 ans. Cet élargissement est motivé par de nouvelles données venant d'une étude menée en Écosse, avec des pourcentages d'efficacité extrêmement encourageants de ce sérum, pour éviter notamment l'hospitalisation chez les sujets les plus âgés. Alors, dans un premier temps, ce sont les personnes de 65 à 74 ans avec des facteurs de risque, comme les personnes obèses, les insuffisants respiratoires, les diabétiques, qui seront prioritaires. Autre recommandation très importante annoncée par la Haute Autorité de Santé, tous les vaccins contre le Covid-19 doivent pouvoir être administrés désormais par les pharmaciens, les infirmiers et les sages-femmes, en plus des médecins. Il faut maintenant attendre un décret pour que ces professions puissent concrètement vacciner dans leurs officines. Mais le but de cet avis est très clair, plus de soignants pour piquer afin d'accélérer la campagne de vaccination. Je rappelle qu'à ce jour, près de 3 millions de Français ont reçu une injection et la moitié d'entre eux a déjà pu bénéficier des deux doses. Et selon les projections du gouvernement, avec ces nouvelles données, 6 millions de Français auront reçu au moins une dose à la fin du mois de mars.
Victor Dolande, l'Allemagne choisit de son côté de desserrer un peu l'étreinte et lance une campagne de tests antigéniques massive face à la lassitude de la population. La chancelière décide d'assouplir un peu les restrictions. Les salons de coiffure ont l'autorisation de rouvrir. Les réunions entre deux foyers sont autorisées, mais pas à plus de 5 personnes.
Dans l'actualité également ce soir, ce rapport choc, les premières conclusions, les premiers éléments de la commission d'enquête sur les abus sexuels commis au sein de l'Église catholique en France, ils sont absolument accablants.
Peut-être 10 000 victimes d'abus sexuels depuis 1950, c'est en tout cas ce que laisse entendre le président de la commission indépendante. Jean-Marc Sauvé parle d'une estimation, Virginie Riva.
Oui, c'est un chiffre qui n'est pas encore définitif, a bien précisé Jean-Marc Sauvé, président de la commission d'enquête. Il se base sur les victimes qui ont déjà témoigné, elles sont 3 000, mais aussi sur les victimes potentielles, celles qui sont décédées, celles qui ne souhaitent pas parler. Pour en établir le nombre, il a commandé une enquête INSERM sur l'ensemble des abus sexuels sur mineurs dans la société, à l'école, dans la famille. Jean-Marc Sauvé, qui a insisté sur la responsabilité collective de l'Église, il fera des préconisations en septembre, libre ensuite à l'Église de les suivre, a-t-il précisé.
Il y a aujourd'hui un profond besoin de reconnaissance individuelle et collective des victimes et de ce qu'elles ont vécu. Ce besoin ne peut se résoudre seulement par le versement d'une somme d'argent, surtout s'il devait être assorti de l'injonction de se taire. Dire la vérité, punir les coupables lorsque cela est encore possible, évaluer les torts des institutions, réparer ce qui peut et doit l'être, poser des gestes forts permettant de rendre justice aux victimes.
D'après les premiers éléments de la commission d'enquête, on sait que la majorité des crimes ont eu lieu dans les années 50 et 60, qu'ils se sont produits majoritairement en établissements scolaires catholiques, puis au catéchisme et un quart en mouvement de jeunesse ou colonie de vacances, des victimes âgées dans la plus grande majorité des cas de 6 à 15 ans.
Virginie Riva. À Bordeaux, l'adolescent de 16 ans qui a refusé un contrôle routier est toujours hospitalisé.
Il a été blessé par balle la nuit dernière alors qu'il tentait d'échapper au volant d'une voiture de sport à la police. Stéphane Place, la police judiciaire de Bordeaux, est donc chargée de l'enquête.
Oui, la PJ qui espère entendre dans les prochaines heures le conducteur atteint au thorax la nuit dernière au volant d'une Audi RS3 de location immatriculée en Pologne. Cet automobiliste refuse de s'arrêter quand une patrouille de police veut, vers 23h, procéder à un banal contrôle. Plutôt que d'obtempérer, le chauffard accélère dans le centre de Bordeaux. Une course-poursuite s'engage jusqu'au quai qui borde la Garonne. Le fuyard se retrouve face à un fourgon de policiers venu en renfort, pris en tenaille alors que plusieurs fonctionnaires s'approchent de la puissante berline. Celle-ci percute un véhicule de police, fonce de nouveau malgré la présence des agents qui sont à proximité et c'est à ce moment-là que retentissent plusieurs coups de feu. L'Audi va avancer encore quelques mètres avant de stopper net. Blessé, le conducteur, âgé, vous le disiez, de 16 ans seulement, déjà connu de la justice, est transféré au CHU où son état se serait donc stabilisé, d'après ce que l'on nous dit ce soir. Quant aux deux passagers qui se trouvaient à ses côtés, ils avaient pris la fuite à pied. Le premier a été rapidement interpellé dans une rue adjacente. Le second est toujours recherché par les enquêteurs.
Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 à Bordeaux.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
À 18h10, la suite du journal. Avec cette révolution donc chez Volvo, le constructeur automobile décide de passer au tout électrique, et cela d'ici 2030.
Oui, et c'est là où le Suédois va plus loin peut-être que la concurrence, c'est qu'il promet d'abandonner l'hybride rechargeable et le moteur thermique. Ces futurs modèles totalement électriques, on ne pourra les acheter que sur Internet, Aurélien Fleurot.
Oui, exactement, c'est une annonce inédite pour un constructeur automobile historique. Des nouveaux venus comme Tesla le proposent déjà, mais voilà, à partir de 2030, les clients feront absolument tout en ligne. Mais cette révolution ne va pas sonner le glas des concessionnaires, selon Yves Pasquier-Desvignes, le président de Volvo Cars France.
Les réseaux de distribution eux-mêmes vont complètement s'adapter à cette digitalisation des process de vente. Donc ils vont être totalement intégrés, c'est pas la fin. C'est juste que le client décidera de son parcours et sans aucun doute, à une échelle de 10 ans, eh bien c'est le pari et la vision que nous avons de ce changement radical de la transaction et la manière de faire la transaction commerciale.
À l'heure actuelle, Volvo est très présent sur le marché des hybrides rechargeables, une technologie de transition pour le constructeur, le temps que les automobilistes soient rassurés par le 100% électrique, notamment avec un réseau de bornes de recharge de qualité, ce qui n'est pas encore le cas. Et dès 2025, l'objectif qui a été annoncé aujourd'hui, c'est d'arriver à la moitié des ventes en 100% électrique pour ensuite abandonner les moteurs thermiques en 2030. un objectif que l'on retrouve chez de plus en plus de constructeurs, notamment ceux positionnés dans le haut de gamme. L'abandon total de l'essence et du diesel prendra certainement un peu plus de temps pour des marques dites généralistes comme Peugeot ou Renault.
Bien, ça va pas être facile d'essayer les voitures sur Internet quand même avant de les acheter.
Simulation peut-être, non ?
Les concessionnaires vont continuer sans doute à nous présenter les modèles. Merci en tout cas Aurélien Fleureau, c'est vrai que c'est une révolution qui s'annonce. Le football maintenant, Rennes n'a pas mis longtemps pour se trouver un nouvel entraîneur.
Ce sera Bruno Genesio, selon nos confrères de l'équipe. Quelques détails resteraient à régler, mais l'ancien entraîneur de Lyon devrait donc succéder à Julien Stéphan sur le banc rennais.
Voilà, Julien c'est moi. C'était traditions en Formule 1, une autre révolution. Le champagne sur le podium, eh ben c'est fini.
Ouais, c'est terminé. C'est vrai que ça fait un petit peu bizarre parce qu'on a tous vu au moins en photo ou en vidéo les images de ces vainqueurs de Grand Prix s'arroser et arroser la foule de champagne. C'est terminé, donc fini la boisson à bulles, Simon Rubin. Enfin, la prochaine en aura des bulles, mais elle ne sera pas française.
Exactement, puisque la marque française de champagne Carbone de la maison de Vavry ne sera plus la boisson des podiums, qui sera remplacée par Sacrilège du Prosecco. Un Prosecco au nom prédestiné, puisque c'est la marque Ferrari qui a été choisie, mais rien à voir avec l'écurie automobile. Alors, il faut rappeler que le champagne Carbone, le français, était présent depuis 3 ans en Formule 1, qu'il avait d'ailleurs piqué le marché au prestigieux Moum et Mouette et Chandon. Un marché prestigieux, oui, bon pour l'image, c'est vrai, mais qui coûte très cher, il faut le souligner, puisque pour être présent sur les podiums, il faut payer plusieurs millions d'euros à l'organisateur du championnat de Formule 1. Une opération qui n'était plus si rentable, a estimé la maison de champagne de Vavry, qui a donc choisi de ne pas prolonger son contrat avec la Formule 1. C'est donc la fin, vous le disiez, d'une tradition qui remontait à 1967 en automobile. Et dans 3 semaines, au Grand Prix de Bahreïn, on va donc voir si le bouchon de la bouteille de Prosecco saute aussi bien que le bouchon de champagne.
Le bouchon de champagne, c'est 300 km/h, pareil.
300 km/h, oui, oui. Dites donc, vous êtes bien enseigné, on voit que vous avez l'habitude. Merci mon cher Christophe. C'était le journal de Christophe Lamar. La météo avec Anissa qui nous annonce un peu plus de nuages demain à l'ouest, mais globalement quand même une atmosphère qui restera printanière.
Oui, il va faire beau demain sur l'ensemble du pays, mais c'est vrai que sur la Bretagne et les Pays de la Loire, nous aurons demain une perturbation, alors un peu comme aujourd'hui, mais un petit peu plus active, c'est-à-dire qu'en plus des nuages, nous aurons quelques gouttes demain dans l'après-midi. Cette perturbation, elle va s'étendre au fil des heures, direction la Basse-Normandie et la Vendée. Alors attention, sur la Basse-Normandie, les orages peuvent éclater dans l'après-midi. Partout ailleurs, c'est du grand et beau soleil. Les températures sont même en hausse demain, Julien, avec toujours des petites gelées matinales dans le Grand Est, moins 2 à Metz, moins 1 à Montluçon, 2 à 10 degrés sur l'ensemble du pays. Puis demain après-midi, vraiment beaucoup de douceur, 11 à Dunkerque, 13 à Brest sous les nuages, 16 à Nice et Aurillac, 18 à Paris et Lyon, 19 à Clermont-Ferrand et 20 pour Mont-de-Marsan.
Merci ma chère Anissa, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point météo à 18h30.
Europe 1, écoutez le monde changer.